Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
C'est là en fait que je vais réaliser qu'elle avait vraiment calé sa vie par rapport à lui, parce que la première nuit, on va se coucher, on est dans le même lit, on n'a qu'une seule chambre, et en fait elle va se réveiller je sais plus à quelle heure dans la nuit, mais pour parler avec lui sur Skype. Et donc elle parle, donc elle me réveille, sauf que moi le lendemain je dois travailler, je suis un peu saoulée, et je vais revenir, et moi j'avais laissé tout un truc, j'avais acheté une carte, je lui avais mis du crédit pour qu'elle puisse bouger, je lui avais passé le plan, etc. Et en fait je reviens, et elle a passé toute la journée dans la maison, elle n'a pas bougé, et elle me dit « je vais rentrer ». Et là, moi, il y a une grosse déception, vraiment une énorme déception. Et moi, je lui dis, mais Johanna, t'as même pas essayé, c'est normal que c'est dur. Moi aussi, crois-moi, les premiers jours où je suis arrivée ici, c'est toujours dur de changer de ville, t'es solo.
Ouais, changer de pays en plus.
Voilà, les gens parlent.
Une référence.
Exactement.
Sur place, quoi.
Et elle me dit, je pars demain. Je suis hyper triste et je lui dis, mais reste au moins le week-end. Au moins, quitte à être venue, reste au moins le week-end, etc. En fait, le week-end se passe super mal. Et en fait, elle profite pas du tout du moment présent. Et à ce moment-là, moi, il y a quelque chose qui est cassé. En fait, je suis hyper déçue.
Salut, je m'appelle Solène Rigoulet et bienvenue dans Friendship. Friendship, c'est le seul podcast entièrement dédié aux relations amicales. Des amis témoignent, racontent leur histoire pour t'accompagner dans tes relations et aussi parfois te divertir. L'amitié du jour est une relation terminée. Aurélie te raconte cette histoire qu'elle a eue il y a plus de 10 ans avec Johanna. Elle se confie sur une amitié déséquilibrée et la violence de la rupture. C'est Aurélie qui a mis fin à cette relation dans laquelle elle n'était tout simplement plus épanouie. Aurélie se livre avec authenticité pour t'aider peut-être à mettre fin à certaines histoires. Attention toutefois, cet épisode aborde des sujets compliqués, parle de violence et de scarification. Si tu n'es pas en état d'écouter cet épisode pour l'instant, passe ton chemin et reviens quand ton état émotionnel te le permettra. Merci à Aurélie pour son temps et sa confiance, et sur ce, je te souhaite une très bonne écoute.
Vous les copains, je ne vous oublierai jamais.
Dans l'amitié, il n'y a pas de fidélité. Pas de légitimité à être jalouse, par exemple. Il n'y a pas d'alliance, pas de cérémonie, pas de champagne pour célébrer une amitié. Pourtant, de toutes les relations qu'on a dans la vie, il y a des chances pour que les amitiés soient celles qui durent le plus longtemps.
L'homme le plus riche est celui qui a les amis les plus puissants. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be
there. You can count on me cause I can count on you. À quoi ça sert les amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment?
N'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié?
Ton ami, c'est moi. Tu sais, je suis ton ami.
Aurélie est bretonne, elle a adopté la Nomad Life avec plus de 25 villes dans lesquelles elle a vécu depuis son plus jeune âge. Passionnée de graphisme et de photos, elle est à son compte depuis 12 ans. Aurélie développe ses amitiés en one-to-one, elle n'a pas vraiment de groupe d'amis, mais vadrouille partout avec des amis qui ne se connaissent pas forcément. Elle vit donc la majorité de ses amitiés à distance. Cet éloignement n'empêche pas Aurélie de voir ses amis, évidemment. L'amitié est une relation très importante à ses yeux. Et même si elle a choisi d'être nomade et de déménager tous les 6 mois dans une nouvelle ville, elle voyage aussi beaucoup pour maintenir le lien avec ses amis proches et passer du temps avec elles et eux. Aurélie partage aujourd'hui son histoire d'amitié avec Johanna et avant tout, comment cette amitié a démarré.
Alors Johanna, on s'est rencontrés lors de notre CAP de photo, donc on avait 15 ans, donc amitié très forte pendant toute notre CAP, de nos 15 ans à nos 17 ans. Faut savoir que moi je vivais en famille d'accueil à ce moment-là et qu'elle était en foyer parce qu'on toutes les deux on était loin de nos familles. On se voyait régulièrement, on allait, c'est le moment en plus à 15 ans, 17 ans où t'as l'impression de devenir un peu adulte, donc on allait boire des Monaco dans les PMU, commencer à fumer un petit peu, des trucs par-ci. Et du coup, vraiment une amitié comme sœur, vraiment comme sœur. Et cette amitié s'est intensifiée. Moi, j'ai un fort instinct maternel avec mes amis. Et Johanna, elle allait pas très bien. Elle se scarifiait, elle se faisait vomir. Et donc moi je l'ai tout de suite pris sous mon aile, je voulais absolument qu'elle aille mieux, donc je la boostais, j'essaie de lui faire en sorte qu'elle se sente bien, qu'elle se sente belle, qu'elle se sente respectée, qu'elle se respecte, qu'elle respecte son corps. Donc il y avait tout un travail. Donc déjà à 15 ans, moi j'allais dans le foyer, je lui faisais à manger
pour déjà dans le soin quoi.
Ouais. Je faisais à manger, je faisais en sorte, je mangeais avec elle pour être sûre qu'elle mange. Je parlais beaucoup avec elle, je parlais beaucoup de sa situation aussi. Je le partageais avec ma mère, ma mère est infirmière. Donc même si ma mère me disait tu peux pas la sauver, mais en tout cas elle était d'une bonne écoute et elle m'a aidée à faire en sorte que Johanna puisse en discuter avec des adultes à ce moment-là. Et pour vous dire, à un point ou un moment, elle m'appelait maman. Johanna.
Ah ouais.
Ouais, et on avait vraiment une relation. Je pense que 15 ans, 17 ans, ouais, il y a un truc où tout est intense. Même l'amour, je pense que quand on vit des relations d'amour, etc., à ce moment-là, l'amitié, c'est pareil, c'est très très intense et on sera amis pour la vie. C'est très simple, c'est très fluide l'amitié, etc. Et on vit vraiment. Enfin, moi, je vivais les choses vraiment très intensément.
Avec le recul aujourd'hui sur cette situation, sur le fait que, ouais, elle te prenait vraiment pour une seconde maman. Tu le vois comment ce passage-là, cet âge-là un peu où tout était très fort.
Aujourd'hui, en tant qu'adulte, je me dis que cette relation elle était vouée à s'éteindre en fait, et à s'éteindre violemment, même si bon ça a été, mais à une forte déception de l'une et l'autre, parce qu'en fait on s'est toutes les deux mises sur un piédestal de fou. Moi finalement j'avais quelqu'un qui m'admirait. J'avais quelqu'un qui m'aimait, qui j'avais la sensation de que cette personne, c'est pas qu'elle pouvait pas vivre sans moi quand même, mais tu vois, elle m'avait donné une place dans sa vie qui était très importante et j'en étais extrêmement reconnaissante. Et elle aussi, je pense qu'elle m'avait mis sur un piédestal énorme. Et en fait, je pense que à long terme, ça peut-être que ça va à 15 ans, 17 ans, mais il y a un moment, la vie, on va rencontrer d'autres amis, on va se mettre en couple, on va avoir des enfants, etc. Et du coup, je pense que cette amitié, dans tous les cas, pour moi, elle était vouée à avoir une cassure, en fait, parce qu'on n'allait pas pouvoir rester. On était comme un couple.
Vous n'alliez pas pouvoir répondre aux attentes l'une de l'autre dans cette relation, et dans tous les cas, il y avait une évolution qui était obligatoire, quoi.
Ouais. Et moi, tu vois, ce que ma mère me disait à l'époque, ce n'est pas ton rôle, tu peux pas la sauver. Ça m'énervait, j'en pleurais, je me souviens, je pleurais d'énervement quand on me disait ça. Mais aujourd'hui, je comprends ce qu'elle voulait dire. Mais à ce moment-là, à 17 ans, t'as pas du tout l'expérience en tant qu'adulte, donc tu te dis pourquoi je pourrais pas la sauver, pourquoi je pourrais pas participer à ça. Je vois qu'elle va mieux, je vois qu'elle mange, je vois, tu vois, qu'elle avait repris un peu de poids, qu'elle avait déjà arrêté de se scarifier, c'était énorme pour moi, parce que moi c'était un truc que c'est pas que je comprenais pas, mais le scarifier vraiment c'était très violent pour moi. Moi je l'ai vraiment vécu comme une grosse violence, et ça c'était un truc pour moi, c'était hors de question quoi.
Aurélie est assez lucide. Elle sait qu'elle a un fort besoin de protection avec ses amis. Elle aime en prenant soin de ses proches. Après le CAP, Aurélie part à Paris pour des études, alors que Johanna reste au Mans pour passer son bac photo.
Les premiers mois, les gens de la classe, donc c'est une toute petite promo, on était 15, donc gros esprit familial dans la promo de photo, tout le monde m'appelle, Johanna a replongé, ça a pas du tout, c'est encore plus violent, etc., etc. Donc moi, grosse culpabilité, parce que bah, j'étais dans une nouvelle aventure, un nouveau, je recrée des liens avec d'autres gens, etc. Et puis c'était Paris, enfin, tout était accessible à Paris, tout était fou. Il va avoir un stage, elle doit faire un stage, et en fait je vais faire mon maximum pour qu'elle fasse le stage à Paris. Donc elle va venir chez moi, et on va vivre ensemble, donc elle va faire ses deux stages, donc c'est l'équivalent de 12 semaines à la maison, et je vais reprendre ce rôle. Instinctivement, je vais le reprendre, je vais m'occuper à nouveau de ça, je vais aller faire les courses. Et moi, à ce moment-là, j'ai vraiment une vie totalement indépendante. Déjà à 17 ans, je me gère, enfin, vraiment une petite maman, hein. Je gère tout à la maison. Et jusqu'à j'ai prévenu mes proprios, j'aurais dit qu'il y aurait quelqu'un, j'ai fait les démarches, j'ai prévenu l'agence immobilière.
T'as pas fait ça en tsum-tsum, quoi.
Non, j'ai vraiment tout organisé, ouais. J'étais prête à payer plus et à payer de ma poche, parce qu'à ce moment-là, elle, Johanna, moi je suis en alternance, Johanna elle travaille pas, et moi, je gagne 300 euros hein, à l'époque, j'ai l'impression que c'était fou, mais je gagne 300 euros à Paris, autant vous dire, nada. Et ouais, ça recommence. Et là, je me dis, ok, ça va aller. Et elle, en parallèle, il y a un adulte qui va entrer dans sa vie, c'est un professeur qui va rentrer et qui va beaucoup l'aider aussi. Et à ce moment-là, je suis hyper reconnaissante. Parce que, en fait, moi, je comprends pas pourquoi les gens la laissent comme ça. Toi, je comprends pas pourquoi au foyer, on m'appelle, que les gens m'appellent, et qu'il y a des gros, bon, foyers, des gens de 17, 19 ans, beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue, et que, et donc à ce moment-là, elle va commencer même à prendre de la drogue, et qu'on la laisse dériver totalement, alors qu'elle est en train de, toi, pour moi, de vouloir faire un maximum pour qu'on la remarque. Et je comprends pas. Et à ce moment-là, il y a ce professeur qui va rentrer, qui émotionnellement est très très intelligent. Et en fait, il va lui demander de lui écrire des lettres. Et ils vont écrire des lettres comme ça. Et en fait, à ce moment-là, pareil, moi je suis jeune, j'ai 18 ans peut-être, je comprends pas vraiment ce que ça veut dire. Mais maintenant, je comprends aussi avec le recul, c'est qu'il lui demande de sortir par de verbaliser et d'arrêter de se scarifier et de le verbaliser, enfin de le faire sortir autrement, mais de le sortir par des mots. Et elle va commencer à aller un peu mieux. On va avoir 19 ans, ça va un peu mieux. Elle arrête en tout cas de se scarifier. Elle replonge toujours ce truc de la nourriture, ouais. Un gros problème de la nourriture. Mais physiquement, elle a arrêté de se faire mal.
C'est hyper douloureux en fait ce que vous vivez dès le début dans votre relation, parce que il y en a une des deux qui va vraiment pas bien, toi qui est vraiment aux soins pour elle. J'imagine que vous partagez pas que ça quand vous êtes ensemble. Il y a pas que du soin, lui faire à manger, prendre soin d'elle, etc. Vous devez sûrement partager d'autres choses, non?
Sûrement. Mais aujourd'hui, tu vois, je m'en souviens pas. Non. Mais c'est sûr qu'on doit partager d'autres choses, parce qu'on se rejoignait sur déjà la photo, c'est un métier très créatif. Donc je me souviens qu'au moment où elle est sur Paris, on va faire beaucoup d'expos. Moi, j'ai toujours des bons plans, on va aller au théâtre gratuitement, on va aller au Louvre gratuitement, parce que je sais à quel moment faut y aller, etc. Et donc on va beaucoup sortir, et on va et moi à ce moment-là, j'adore ma vie parisienne. Je trouve c'est la chienneté, mais je kiffe ma vie parisienne, quoi. Vraiment, c'est super, et donc je l'emmène avec moi là-dedans. Et parce que mine de rien, au Mans, faut savoir que c'était, enfin moi personnellement, je trouve que c'est une ville assez triste à ce moment-là. Enfin, c'était il y a longtemps, mais c'était une ville assez triste. Il n'y avait pas du tout le tram comme il y a aujourd'hui, et il n'y avait rien à faire à part les PMU. Et moi, j'essayais vraiment de la pousser. Et en fait, ouais, à la fin du coup de ce bac, elle va rencontrer quelqu'un, elle va tomber amoureuse. Et là, c'est une nouvelle Johanna. Je la trouve beaucoup plus solaire. Et moi, à la fin de mon bac, je pars à Londres. Et elle, le truc, c'est qu'elle devient dépendante après de son copain. C'est-à-dire qu'elle fait tout avec lui.
Elle était dépendante de toi.
Et elle part dépendante de ce copain. Et moi, il faut savoir que mes 3 ans à Paris, par contre, ils m'ont fait beaucoup évoluer. J'ai beaucoup changé. Enfin, ça fait 3 ans que je travaille. Ma vie à Paris, elle n'a pas été facile. Et il faut tout le temps se battre. Et moi, j'arrive à Londres. C'est pas encore, à ce moment-là, c'est vraiment pas facile. Pour la première semaine, j'ai mangé que des clémentines. Je mangeais pas d'argent. Et après, ça va aller. Mais vraiment, mais je me relève tout le temps. Et là, à ce moment-là, moi, je pense que je commence déjà un peu à être fatiguée de cette relation. Mais elle part avec ce couple. Et donc là, je me dis, bon, ça va aller.
Aurélie a pris son indépendance. Elle a trouvé son épanouissement dans une autre ville auprès de nouveaux amis. Et à Londres, tout devient possible. Une nouvelle vie s'offre à elle. Elle reste malgré tout très proche de Johanna, même si la distance les sépare.
Oui, on est encore très très proche. Et elle, ce qui va se passer, c'est que son copain, il va partir au Canada. Donc l'école est terminée, elle est au chômage. Donc elle a fini un bac photo et c'est pas un métier qui est facile à trouver. Donc elle est au chômage, elle commence à déprimer. Et lui, il part faire sa vie carrément même au Canada, il déménage. Et en fait, elle va complètement, encore une fois, faire sa vie par rapport à lui, c'est-à-dire qu'elle ne dort pas la nuit parce qu'avec le décalage horaire comme ça, elle peut lui parler, donc elle dort la journée. Et en fait, petit à petit, elle sombre. Et moi, je me dis, elle va retomber à nouveau dans ses travers. Et donc, je lui dis, viens à Londres, parce que moi, ma solution...
Toujours dans le sombre.
Je me dis, quand elle va voir Londres... Moi, j'étais tellement contente d'être à Londres. Quand je me dis, quand elle va voir Londres, toutes les possibilités... Moi, il faut savoir qu'à ce moment-là, à Londres, je suis photographe dans une agence de mode. Donc, je me dis, viens. Il y a franchement, à Londres, il y a du potentiel. Elle vit dans un petit village loin du Mans, mais un petit village en 72, et il n'y a rien. Et je lui dis, viens, il faut absolument que tu viennes. Et en fait, cette relation qui était super commence à beaucoup l'atteindre, et elle commence à se couper de sa famille, à ne plus parler à sa mère. Elle est très énervée contre sa mère à cette période-là. Et elle me dit, bon, je vais voir, et j'organise tout, encore une fois. Je prends mon proprio, parce que je vivais en coloc, mon proprio vivait avec nous. Je vais voir mon proprio, parce que j'avais une chambre normalement pour un couple. Je lui dis, j'ai une amie qui va venir, est-ce que je peux venir? Enfin, est-ce qu'elle peut venir? Il me dit, y a pas de problème. Je commence avec mon anglais tout pété, je commence à aller voir l'équivalent de Pôle emploi, des trucs comme ça, pour voir ce qu'elle pourrait faire ici en attendant, pour trouver un travail, parce que par contre, la vie à Londres est vraiment chère, et moi, je pourrais pas financièrement l'entretenir. Mais je commence à faire toutes les démarches. Et je suis vraiment super excitée. Moi, je suis super contente qu'elle vienne. Je vais avoir une copine avec moi à Londres. Je suis super emballée par le projet. Je me dis que ça va forcément lui faire du bien, qu'on va pouvoir sortir. Parce qu'à Londres, en plus, ça va faire, enfin, la fête, c'est super. C'est super safe pour sortir quand t'es une fille. Moi, j'avais vraiment... j'avais déjà mes petites routines et tout. Et j'avais déjà commencé à faire des rencontres. Et donc, je me dis, ça va vraiment lui faire du bien. Qu'à ce moment, on a 19 ans. On peut pas... Moi, j'ai conscience qu'à 19 ans, on peut pas faire sa vie par rapport à un homme qui n'est pas là en plus physiquement et qui, lui, est en train de construire quelque chose et qu'il faut qu'elle construise quelque chose. Et donc, elle va venir. On va passer la première soirée. Moi, il y a un gros décalage entre elle et moi. Je suis surexcitée. Et elle est en pleurs.
Ah oui.
Elle est...
Parce qu'elle, elle est triste. Du fait d'être loin de son copain, peut-être ?
Ouais, moi, à ce moment-là, je réalise pas à quel point le décalage qu'elle avait vraiment. C'est là, en fait, que je vais réaliser qu'elle avait vraiment calé sa vie par rapport à lui, parce que la première nuit, on va se coucher, on est dans le même lit, on n'a qu'une seule chambre, et en fait, elle va se réveiller, je sais plus à quelle heure dans la nuit, mais pour parler avec lui sur Skype. Et donc, elle parle, donc elle me réveille, sauf que moi, le lendemain, je dois travailler, je suis un peu saoulée. Et je vais partir et je vais revenir. Et moi, j'avais laissé tout un truc. J'avais acheté une carte. Je lui avais mis du crédit pour qu'elle puisse bouger. Je lui avais passé le plan, etc. Et en fait, je reviens et elle a passé toute la journée dans la maison. Elle n'a pas bougé. Et elle me dit, je vais rentrer. Et là, moi, il y a une grosse déception. Vraiment une énorme déception. Et elle me dit, non, mais je vais rentrer. Je sais même plus ce qu'elle me dit à l'époque, mais grosso modo, c'est pas bon, c'est pas pour elle. Et moi, je lui dis, mais Johanna, t'as même pas essayé, c'est normal que c'est dur. Moi aussi, crois-moi, les premiers jours où je suis arrivée ici, c'est toujours dur de changer de ville, t'es solo.
Ouais, changer de pays en plus. Voilà, les gens parlent. Aucune référence.
Exactement.
Sur place, quoi.
Les gens parlent pas la même langue et tout. Je lui dis, mais là, t'es même pas sortie. Et elle me dit, je pars demain. Je suis hyper triste et je lui dis, mais reste au moins le week-end. Au moins, quitte à être venue, reste au moins le week-end, etc. Me dit oui, bon, peut-être. Et en fait, le week-end se passe super mal. Elle pleure, elle me parle que de son copain. Tout est. Et en fait, on doit rentrer à la maison pour qu'elle puisse parler à son copain. Et en fait, elle ne profite pas du tout du moment présent. Et à ce moment-là, moi, il y a quelque chose qui est cassé. En fait, je suis hyper déçue. Vraiment très, très déçue.
Vous n'arrivez jamais à en parler de ça, de toi, tes attentes qui ne correspondent pas aux siennes à ce moment-là?
Non, parce que moi, je lui en veux d'être. C'est méchant ce que je vais dire et je suis désolée, mais à ce moment-là, c'est ce que je ressens. Je lui en veux d'être faible par rapport à ce garçon. Je me dis, mais elle a une chance. Enfin, vraiment, moi, je prends tellement ce truc à Londres comme une chance de ouf, une opportunité de dingue. Alors que moi, j'avais déjà prévu, je me disais, elle va venir avec moi sur les shootings photos. Enfin, la photo, c'est hyper compliqué à ce moment-là. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc c'était pas aussi. C'était un moment où le numérique débutait et l'argentique se terminait. Et donc, nous, on avait eu des réflexions comme mais faut pas faire photographe, vous voulez faire quoi, vous voulez qu'on joue aux échecs. Ça avait été hyper compliqué, vraiment. Et du coup, je me dis, mais là, c'est super, j'ai accès à quelque chose dont je vais pouvoir lui faire profiter et on va s'éclater. Moi, je nous voyais déjà faire des shootings photos. Et en fait, elle me dit non. Et je lui dis, mais là, tu vas rentrer. Il va se passer quoi? Ton copain, il sera toujours pas là. Tu vas toujours continuer à te mettre sur son rythme à lui, etc., etc. Et c'est ce qui va se passer, en fait. Elle va rentrer.
Est-ce que tu vas arriver à savoir, elle, pourquoi elle vient, finalement? Est-ce que c'est parce que c'est toi qui as tout mis en place pour qu'elle vienne? Est-ce qu'au fond, elle en avait envie? Est-ce que c'est pour te faire plaisir? Est-ce que tu arrives à savoir pourquoi est-ce qu'elle est venue jusqu'à Londres pour repartir aussitôt?
Elle est venue pour me faire plaisir. Clairement, elle n'y croyait pas que ça allait... Moi, je voyais toutes les opportunités, mais elle n'est pas du tout venue pour les opportunités. Elle n'est pas venue pour ça. Elle est venue parce qu'elle n'était pas bien, qu'elle ne s'entendait pas à ce moment-là avec sa mère et qu'elle s'est dit, je pense que je vais aller avec Aurélie, ça va être cool de voir Aurélie. Je pense qu'elle était super contente de me voir. Mais tout ce que moi, j'avais projeté pour sa vie, à elle, pour notre construction, parce qu'on est jeune, à ce moment-là, 19 ans, on est en train de construire notre vie pro, elle ne l'a pas vue et elle n'était pas venue pour ça.
Et elle arrive à te le dire ?
Non. Et moi, je culpabilise parce qu'en fait, je me sens... J'ai l'impression que je l'ai forcée à faire quelque chose. Je me sens nulle parce que je me suis engagée. Enfin, tu vois, mon proprio, je m'entendais super bien avec lui. Mais je m'étais engagée. On avait parlé de plein de trucs. Bref, je m'étais engagée. Et je me sens nulle parce qu'elle va partir. Je vais devoir retourner voir mon proprio. Je vais dire, ah non, en fait... elle part, voilà. J'avais demandé à des amis, on devait rencontrer mes amis le lundi soir qui suivait pour l'aider à chercher du travail. Donc en fait, je vais devoir rappeler ses amis et leur dire. En fait, ça m'énerve parce que à ce moment-là, moi, j'ai l'impression que je me suis donnée à fond et qu'en fait, elle n'est pas du tout venue pour ça, quoi. Et elle est venue pour me faire plaisir, ouais. Mais moi, c'est pas ce que je voulais. Je voulais qu'elle trouve sa propre voie. Ouais.
Et en même temps, elle vient pour te faire plaisir, mais elle n'est pas avec toi. Elle est encore, elle est au Canada, enfin, même si physiquement elle est à Londres, tout son cœur et sa tête sont au Canada, quoi. Mm. Est-ce qu'il y a un peu de jalousie de ta part par rapport à cette relation justement qui prend énormément de place dans sa vie ?
Non, à ce moment-là, je suis super contente parce que je pense qu'elle avait besoin d'être valorisée par un regard masculin. Et je suis très contente à ce moment-là qu'elle ait quelqu'un.
Et du coup, comment ça se passe ensuite ? Elle repart à la fin du week-end qui se passe ? Pas très bien.
Non, pas très bien.
Qu'est-ce que vous vous dites quand elle part ?
Ben moi, je lui dis que je suis déçue. Je le verbalise, j'en souviens, parce que je lui dis que en vrai, elle était venue à Londres et on n'a rien fait pour voir Londres. Vraiment, quand je vous dis qu'on a calé tous nos week-ends sur le Canada, on a calé tous nos week-ends sur le Canada.
Ouais, donc vous n'avez même pas visité, quoi.
Non. Ouais. Je suis hyper déçue et en fait, je sens à ce moment-là qu'il y a une... Et je le sais parce que ça m'est réarrivé après, par la suite, dans mes amitiés. Mais je sens à ce moment-là ce que je verbalise comme une faiblesse à ce moment-là, même si ça ne l'est pas. Mais à ce moment-là, quand j'ai 19 ans, je verbalise comme une faiblesse. Ça me déçoit et ça me donne plus envie, en fait, de continuer à être amie avec elle.
Et elle réagit comment, au fait, quand tu lui dis que tu es déçue de ce moment-là, justement ?
Bah elle, j'ai l'impression qu'elle est tellement triste et tellement concentrée sur elle et son... Parce qu'en fait, elle fait que de se plaindre que son copain, elle le vit vraiment comme une... Je sais pas comment dire, mais quelque chose vraiment de lourd. Mmh. Pour elle, c'est très, très lourd qu'il soit loin. Et donc, tout tourne autour de lui. Tout tourne autour de son chagrin. Tout tourne autour du fait qu'ils vont pas se voir pendant plusieurs mois, etc. Elle se rend pas forcément compte. En fait, elle est même... Enfin, moi, je suis surprise qu'elle soit pas triste de pas avoir profité de Londres, qu'elle soit pas triste de se dire qu'elle va retourner dans un village où elle se fait chier, etc., et qu'elle va continuer à attendre. Il est quand même parti un an. Et elle est prête à attendre un an, comme ça, en faisant rien.
Sa vie en pause pendant un an, quoi.
Elle, je la sens pas attristée sur ce que nous, on est en train de vivre, sur notre relation à toutes les deux. Et d'ailleurs, je le sais parce que je vais lui demander plus tard, mais elle, à ce moment-là, elle ne se rend pas compte à quel point elle m'a blessée et à quel point je suis énervée parce que, comme je disais, moi, quand je me suis engagée et quand je parle à certaines personnes, j'ai l'impression que du coup, c'est ma propre image qui va être ternie. Et je sais qu'elle ne va pas s'en rendre compte. Et même aujourd'hui, si on en discutait, je ne suis pas sûre qu'elle se rende compte à quel point moi, j'avais tout donné en fait pour son arrivée.
À 19 ans, Aurélie ne réalise pas qu'une fois encore, elle s'est occupée d'elle, qu'elle maternait Johanna pour l'aider à aller mieux. Mais cette fois, elle a moins de patience. Elle ne se rend pas compte tout de suite de ce qui est en train de se passer. Mais leur histoire est clairement sur la fin. Après cet événement londonien, Aurélie et Johanna vont se revoir.
On va se revoir quelques mois plus tard, quand je vais rentrer en France, moi. Je vais organiser mon anniversaire et elle va venir avec un nouveau garçon.
Donc tu la considères encore comme ton amie, malgré la déception à ce moment-là ?
Non.
Ah ouais, mais tu l'invites quand même ?
Je l'invite quand même.
Pourquoi ?
Bah parce qu'il faut un temps pour faire un deuil, je pense.
Ok.
Mais moi, à ce moment-là, je l'invite parce qu'elle est importante et que je l'aime encore. Mais ce truc-là, d'ailleurs, il n'est jamais revenu. C'est-à-dire que l'amitié que j'ai eue avec elle à ce moment-là, elle ne reviendra jamais. Là où je l'avais mis, c'est terminé en fait. Et donc, elle va venir à mon anniversaire avec ce nouveau garçon. Elle est encore dans le même schéma. Mais à ce moment-là, moi, je suis tellement fatiguée de mon expérience à Londres, etc., que je j'y prête pas forcément attention.
Oui, puis c'est peut-être pas le moment, t'as d'autres gens autour de toi pour ton anniversaire, et vous êtes pas juste en tête à tête, quoi. Donc,
Ça va clôturer un peu cet anniversaire parce que elle va être collée avec son copain. Nous, on s'est pas vus depuis plusieurs mois. Elle me demande pas, moi, comment je vais. Et en fait, moi, il faut savoir que pendant toute cette période-là, que ce soit Paris ou Londres, j'ai vraiment traversé des moments difficiles, mais je l'ai jamais... en fait, je fais jamais peser après sur mes amis. C'est-à-dire que moi, je suis prête à encaisser, mais je le fais jamais peser. Et à ce moment-là, je me rends compte qu'il y a même pas de retour quand même de choses où elle pourrait être un support pour moi. Je le décide en fait dans ma tête que c'est la dernière fois en fait que je la vois.
Aurélie a eu le courage de mettre fin à cette histoire d'amitié. Certains préfèrent laisser le temps ou la vie faire les choses. Elle, elle a choisi d'agir et de terminer cette histoire non sans douleur.
Et je me souviens très bien, c'est que je vais devenir de plus en plus froide. Et donc elle va encore avoir des soucis avec ce nouveau garçon. Et en fait, je vais totalement m'en détacher et je vais vraiment devenir froide pour le coup. Et donc elle va le sentir. Et je me souviens, elle me pose la question tout simplement. Elle me dit oui, je trouve que ces derniers temps... on n'échange plus trop, t'es plus comme avant.
Par message.
Ouais, par message, Facebook. Et je lui réponds tout simplement, Johanna, je pense que c'est parce qu'on n'a plus rien à se dire, en fait. Et elle me dit, comment ça? Mais moi, j'ai encore des choses à te dire. J'ai dit, dans ce cas, je reformule. Moi, j'ai plus rien à te dire. Et en fait, ça s'arrête là. Et elle répond pas. Elle va me répondre, je pense, plusieurs semaines après, parce que je me sens qu'elle reprend contact avec moi. Comme si, vous savez, quand on était petits, on faisait la gueule et après, on se reparlait. Mais en fait, je vais lui répondre à ce moment-là et je vais lui redire en fait ce que je lui ai déjà dit, mais c'était pas un caprice, etc. C'est quelque chose de réfléchi. Je me vois pas en fait continuer une amitié ensemble. On s'apporte plus rien et pour moi, c'est la fin en fait. J'ai décidé que c'était la fin.
Parce que là, tu romps comme on pourrait rompre dans un couple, sauf que. Bon, c'est fortement déconseillé de rompre par SMS. Mais.
Il faut savoir qu'à ce moment-là, je suis loin, moi. Je vis pas du tout dans la même ville qu'elle.
Bien sûr. Mais ce que j'allais dire, c'est que, en fait, souvent, la personne qui se fait quitter a besoin de comprendre, a besoin d'explications, parce que pour la personne qui quitte, c'est une décision qui est mûrement réfléchie. Pour la personne qui se fait quitter, c'est souvent mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas moi, c'est toi. Elle va essayer d'avoir des explications. Elle va t'en demander pour essayer de comprendre.
Je sais qu'elle va essayer d'en avoir parce qu'elle comprend pas ce truc de. Et moi, sincèrement, à ce moment-là, quand je dis qu'on a plus rien à se dire, c'est simple. Enfin, pour moi, la phrase, elle est logique. Enfin, c'est clair. C'est très clair de dire qu'on a plus rien à se dire. C'est je suis désolée. C'est comme quand tu dis à quelqu'un, je suis désolée, mais juste, je t'aime plus. C'est pas personnel, mais je crois qu'on arrive à la fin. Et moi, c'est ce que ça veut dire. À ce moment-là, je lui dis, on a plus rien à se dire et qu'elle comprend pas. Et je lui dis, écoute. Je vais pas lui reparler du truc de Londres, mais en fait c'est vraiment ça qui a cassé l'amitié et je dis que ça reviendra jamais comme avant. C'est en fait cette déception que j'ai eue. Pour la petite parenthèse, c'est que plus tard, maintenant je sais, en fait il y a une part de moi qui admire mes amis. C'est-à-dire que je suis avec des gens que j'admire, qui me poussent vers le haut, etc. Et quand je me retrouve dans une amitié avec quelqu'un qui n'avance pas, ou se plaint tout le temps, ou vraiment j'ai la sensation. Et moi, je vais tout le temps essayer de l'aider. Mais en fait, à un moment où je vais arriver à. Où je me dis, là, et surtout que maintenant je suis adulte, là, en fait, Aurélie, tu peux plus rien faire pour cette personne. T'as essayé de lui donner des conseils, mais maintenant, les cartes sont entre ses mains et c'est elle qui choisit si oui ou non elle décide de se bouger ou de réaliser vraiment ses rêves, ce dont elle arrête pas de parler. Voilà. Et en fait, toutes mes amitiés aujourd'hui, quand j'ai plus d'admiration pour la personne, enfin d'admiration, quand j'ai plus d'inspiration ou de, tu vois, ça s'arrête. Et c'est ce qui s'est passé avec Johanna, donc à 19 ans, où je lui dis ça. Et donc, quand elle comprend, elle comprend parce qu'on va pas, je sens qu'on n'a pas parlé pendant des heures et des heures. Et je sais qu'elle va dire à une amie qu'on a en commun que c'est brutal, mais elle n'est pas énervée contre moi. En fait, il y a jamais eu d'énervement entre nous. Il y a toujours eu, même aujourd'hui, tu vois, je suis déçue, mais ça veut pas dire que je considère que c'est une personne. C'est pour ça que j'aimais pas le mot faible, mais je considère pas du tout que c'est une personne faible et tout. C'est juste qu'à ce moment-là, moi, j'avais fait ce que je pouvais faire et cette relation ne m'apportait plus, en fait.
Qu'est-ce qui faisait, selon toi, qu'est-ce qui faisait la force de votre amitié avant ça?
peut-être qu'il y avait une partie de moi qui se reconnaissait en elle, et j'avais l'impression, en fait, quand on était toutes les deux, moi j'avais l'impression que tout était possible. C'est pour ça que quand elle est venue à Londres, j'étais excitée, parce que je me disais, mais on va tout casser. Vraiment, on va tout casser, les gens ils sont pas prêts, on va tout casser.
Elle venait multiplier tes forces, quoi, ton pouvoir un peu... Et tu dis que vous aviez des amis en commun, tu l'annonces du coup autour de toi, même peut-être à ta mère, que c'est bon, c'est fini avec Johanna, ouais. Comme on dirait c'est fini avec... avec son conjoint ou sa conjointe, comment les gens réagissent autour de toi ?
Alors je l'annonce, les deux personnes dont je me souviens, c'est je l'annonce à ma mère en effet, parce qu'à ce moment-là où je romps avec Johanna, je suis chez mes grands-parents en Bretagne, et donc je l'annonce à ma mère, moi je suis soulagée, je suis même pas triste, je suis vraiment soulagée parce que j'avais l'impression de faire semblant, enfin de me forcer à lui parler, de me forcer à être... Et du coup, là, je suis soulagée. Ma mère aussi, je crois qu'elle est soulagée. Parce qu'elle voit bien, même si elle voit que c'est la dernière année, là, quand même, je me suis détachée, etc. Mais elle est pas dupe. Enfin, elle sait que quand je vivais au Mans, on a fait plein de choses ensemble et que ça aurait pu m'entraîner un peu, moi aussi, vers le bas. Et notre amie qu'on a en commun, qui s'appelle Florie, qui est aujourd'hui ma meilleure amie, elle est pas surprise, en fait, parce qu'elle... Elle aussi, elle va aller vivre à Londres, elle va vivre son indépendance. Et c'est vrai qu'elle aussi se reconnaît pas forcément se reconnaît plus en tout cas dans Johanna, qui va en fait à 19 ans avoir déjà une vie de quelqu'un, enfin peut-être maintenant même 20 ans, de quelqu'un qui a 40 ans en fait, qui va vraiment s'arrêter, s'enterrer, ne plus rencontrer personne. Elle n'avait pas d'amis, elle rencontrait plus personne, etc. Et donc avec Florie, elle va me dire ouais, je suis pas surprise. Et elle aussi, en fait, Florie aujourd'hui ne parle pas. N'est plus en contact avec Johanna, parce que, mais elles ont pas rompu, mais ça c'est, comme tu dis, exactement, avec le temps, un petit peu, voilà, voilà.
C'était important pour toi de mettre un point final pour qu'elles ne reviennent plus ?
Alors, je l'ai pas vu pour qu'elles ne reviennent plus, mais en fait, moi, je me sentais pas bien. J'avais l'impression d'être hypocrite, de répondre à quelqu'un, de me forcer à répondre à quelqu'un et d'être hypocrite, en fait. Et j'étais, à la fin, je m'énervais, mais je m'énervais surtout contre moi, en fait. Ouais, ça m'énervait, en fait. Quand elle m'écrivait, j'étais énervée.
Aujourd'hui, tu pourrais la ghoster.
La ghoster, ça veut dire tu réponds pas ?
Ouais.
non, j'arrive pas à faire ça.
Tu serais pas capable ?
Non, ça resterait dans ma tête.
Ça fait plus de 10 ans que Johanna et Aurélie ne se parlent plus, qu'elles ne sont plus amies, tout simplement. Depuis, Aurélie a repensé à cette histoire et a connu d'autres ruptures amicales.
Ce schéma, il va se reproduire, en fait, de ce truc de déception, qu'en fait, quand la personne ne m'inspire plus. Moi, il faut savoir que j'ai eu des coups de foudre amicaux. Vraiment des coups de foudre dans l'ascenseur avec
une envie de séduire la personne.
C'est vrai, et les gens nous ont dit qu'on était un couple avec Karima, avec qui on est re-amis aujourd'hui, mais avec qui il y a eu aussi une grosse rupture, et elle aussi d'ailleurs, on s'est dit mutuellement que c'était terminé.
Ah oui.
Ouais, mais je crois, moi j'ai fait plein de ruptures en fait amicales. Aujourd'hui, je suis plus indulgente avec mes amitiés. En fait, un jour, il y a mon patron, mon ancien patron, qui m'a dit, je sais pas ce que j'ai raconté ou je sais plus ce que j'ai fait, et il éclate de rire et il me dit, mais Aurélie, t'as... Alors, je sais pas si c'est vrai, parce que j'ai jamais vérifié, mais il m'a dit, mais tu sais que t'as une amitié masculine, t'as une façon d'aimer en amitié masculine. Et j'ai dit, ah bon, et ça veut dire quoi ? Il me dit, bah, tu regarderas, mais souvent, que les hommes, apparemment, en amitié, ils s'admirent les uns les autres. Ils sont ensemble parce qu'ils s'admirent, il y a un truc de boost. Alors que les filles, et ils vont souvent être avec des gens même différents. Les hommes, ils ont pas de mal à être avec des hommes qui ne les ressemblent pas, qui sont peut-être à un autre point de leur vie et ils s'inspirent. Alors que les filles, apparemment, en amitié, on se met avec des gens qui nous ressemblent, qui sont un peu nos miroirs ou qui sont sur les mêmes. Et moi, mes amis, filles, et garçons, c'est vrai qu'ils se ressemblent pas. Enfin, c'est pour ça que des fois ils se rencontrent pas d'ailleurs, parce qu'ils se ressemblent pas forcément et ils me ressemblent pas forcément. Et j'ai même des amis avec qui on est pratiquement jamais d'accord, mais je les aime plus que tout. Et parce qu'en fait, on a beaucoup de respect par contre pour l'un et l'autre. Et donc, du coup, avec le recul maintenant, et même quand il m'avait dit ça, je me suis rendu compte que peut-être il fallait que je calme ce côté-là de, tu vois, un peu trop.
D'admiration.
Ouais, d'admiration et d'être OK avec le fait que les gens n'évoluent pas tous à la même vitesse. Et peut-être qu'il y a des rêves, parce qu'en fait, j'avais du mal avec le fait que les gens me parlent de rêves, mais qui ne passent jamais à l'action pour leurs rêves. Et il y a une partie de moi maintenant qui a accepté qu'il y a des gens qui ont besoin juste de rêver, de fantasmer des choses, et que ça restera dans l'ordre du rêve, tu vois.
Est-ce que cette rupture amicale, après, ça t'a fait évoluer dans la construction de tes amitiés qui sont venues après, celles qui sont nées après ça ? Est-ce que Il y a des choses où tu t'es dit, ça, je n'accepterai plus en amitié. Alors, on a parlé de l'admiration, mais peut-être dans... Vous, vous étiez très... Vous faisiez un, finalement, pendant très longtemps. Est-ce que c'est un schéma qui s'est reproduit ou est-ce que tu as pris conscience et tu t'es dit, bah, en fait, c'est un schéma qui ne me correspond pas? Est-ce qu'il y a des choses que tu as analysées sur cette relation pour soit les remettre en place avec d'autres, soit pour justement ne plus les reproduire?
Alors, à 20 ans, je ne l'ai pas analysé, donc je vais le reproduire à nouveau. Ouais. Mais par contre, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, je fais beaucoup plus attention et je mets beaucoup plus de distance. Et en fait, je n'ai plus ce syndrome, tu vois, du sauveur envers mes amis. Je les respecte, etc. Et je respecte leurs choix. Mais par contre, je n'interviens plus. C'est-à-dire que moi, je ne mets plus toute mon énergie pour les sauver. Par contre, un autre truc que j'ai appris, c'est que vu que j'ai eu des ruptures amicales, tu vois, par exemple, il y a des fois des gens qui me disent qu'ils ont peur, en fait, de se lier d'amitié avec des gens parce qu'ils ont peur, justement, de cet après, que les gens peuvent arrêter de te parler, etc. Moi, j'ai pas ce truc-là. Par contre, tu vois, là, je fais un tour de France. Je vis avec des gens et, en fait, je vis les choses intensément. Et je ne pense pas... Je pense pas à peut-être un jour on se parlera pas. En fait, je suis OK avec ça. Peut-être que oui, un jour on se parlera plus et c'est OK. C'est un truc aussi maintenant, vu que j'ai déjà eu des ruptures, bah, tu vois, des gens que vraiment j'appréciais. Entre autres, Johanna, vraiment, c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup et que j'aimais beaucoup. Maintenant, quand j'ai des nouvelles amitiés, quand je crée des liens, en tout cas avec les gens, bah, je leur mets aucune pression sur le fait qu'on doit absolument s'appeler tous les mois, qu'il y a des règles et tout. Je n'ai aucune règle dans mes amitiés.
Est-ce que, après cette relation avec Johanna, t'as eu peur de pas retrouver d'amitié aussi forte que celle que t'as eue avec elle?
Non, vraiment. Comme je te dis, je me suis vraiment détachée de ça. Maintenant, vraiment, les rencontres, je les prends vraiment à bras ouverts. Je les prends et je profite du moment. Et c'est drôle parce qu'on était dans une ville à Toulouse, là, quand j'ai vécu à Toulouse. Et pour te donner un exemple, et je me suis dit, ah ouais, en fait, ce que tu dis, peut-être que les gens le prennent mal, mais c'est vraiment ce que je ressentais, c'est qu'on était à Toulouse. On vivait un anniversaire d'une de nos colocatrices, Marina, et c'était super. On était dans la rue, on chantait dans la rue à Toulouse, etc. On était ivres de joie. Et je prends Marina dans mes bras et je lui dis, te rends compte, on fête ensemble tes 40 ans et ensemble à Toulouse. Et je sais que moi, je savais que je revivrais sûrement jamais à Toulouse. Et Marina, elle vit plus d'ailleurs maintenant à Toulouse. Et je disais, c'est dingue qu'on vive tes 40 ans à Toulouse, on revivra jamais ça. Et elle a mal pris. Mais moi, ça voulait dire que je vivais vraiment le moment. Mais je le prenais et je profitais de chaque truc. Et moi, je photographie, j'enregistre les rires, etc. Pas parce qu'on se reverra jamais, mais c'est juste que ce moment, il sera précieux, il sera gravé pour moi. Et elle a pris comme un Aurélie, bon, bah, va partir et.
On se reverra jamais.
Exactement. En fait, elle me considère pas plus que ça. Alors que finalement, je la rappelle un mois plus tard, je lui dis, où est-ce que t'es? Elle me dit, je suis à Toulouse, j'aimerais bien partir. Je lui dis, viens avec nous, on va vivre à Avignon et elle va venir vivre avec moi 2 mois à Avignon, tu vois. Mais vraiment, je me souviens de cette soirée où. Et elle dit à Abdou, mon conjoint, mais pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle parle anglais. Elle me dit, mais pourquoi elle dit ça? C'est triste de dire ça. Alors que moi, je le prends vraiment pas comme tristesse, pardon. Maintenant, je vis les choses vraiment très intensément.
Est-ce que depuis ces 10 ans, t'as eu un message d'elle, tu lui as écrit? Est-ce que vous avez eu un contact en 10 ans ou vraiment rien du tout?
Elle a perdu sa maman. Et ça m'a attristée parce que j'ai vu à quel point ça l'affectait. Sa maman est décédée brutalement. Et donc, du coup, à ce moment-là, oui, moi, je suis très, très attristée parce que forcément, je ne me voyais pas perdre non plus ma mère. Et je pense qu'à ce moment-là, on a 26 ans, quelque chose comme ça. Et je vais vraiment hésiter à lui écrire. Vraiment, vraiment. Et je me dis, bon, Aurélie, écris-lui, dis-lui que t'es désolée, etc. Et je vais pas le faire. Je vais pas écrire. Pas parce que vraiment, il faut savoir que j'étais vraiment triste et toutes mes pensées étaient pour elle et que ça m'affectait beaucoup. Et en fait, j'ai pris des nouvelles d'elle par biais d'autres gens, donc elle le sait pas. Mais moi, j'ai demandé aux gens comment elle allait, qu'est-ce qui s'était passé, etc. Mais je vais pas lui écrire parce que j'ai peur. En fait, c'est qu'on a toujours rien à se dire. Malheureusement, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est qu'à ce moment-là, je suis désolée et vraiment, toutes mes pensées sont pour elle, mais je me dis, j'ai pas envie de retourner dans un truc où je vais lui écrire, je suis désolée, elle va me remercier et on va devoir à nouveau être poli, se donner de temps en temps des nouvelles pour être poli. On n'a pas besoin d'être poli. Mais ça n'empêche pas, par contre, que je suis vraiment très affectée par la perte de sa maman.
Il y a toujours de l'amour.
Ouais. J'ai toujours beaucoup de respect pour elle. Aujourd'hui, je sais qu'elle a des enfants. Toi, je ne la suis pas. Je ne sais pas vraiment où elle est. Je ne sais pas où elle vit. Mais bon, j'espère qu'elle est toujours avec son conjoint. Je sais qu'elle a eu des enfants, qu'elle est toujours dans ce petit village. et qui a fait pas du tout de photos, qui a fait plus de photos, mais je sais qu'elle est heureuse, enfin je sais que pour elle avoir une famille c'était un de ses rêves et donc je suis heureuse pour elle.
Tu vois, finalement elle l'a atteint son rêve.
Exactement.
Même si c'était pas aussi rapidement que...
Mais c'était pas le rêve londonien, c'était pas le mien.
C'est ça, exactement. Est-ce que cette rupture-là, est-ce que ça t'a appris à rompre après avec d'autres personnes en amitié, notamment parce que je sais que c'était pas ta seule rupture amicale, pour que ce soit peut-être un peu moins violent, un peu moins douloureux pour les deux parties?
Non. Ça m'a pas appris à rompre, malheureusement. Parce que tu t'espères toujours, enfin, par exemple, l'autre personne avec qui j'ai rompu amicalement, t'espères que ça va s'arranger. Là, vous êtes un peu plus âgé, donc vous dites, on va parler, ça va, je vais lui dire vraiment ce que j'ai sur le cœur, il va me partager aussi ses trucs et tout. En fait, je trouve que c'était plus facile, justement, quand on se faisait la gueule et qu'on se réconciliait parce qu'on se disait sincèrement les choses. Tu vois, alors que je trouve qu'aujourd'hui, quand tu te prends la tête avec un ami ou quand il y a un truc un peu qui te vexe, bah tu vas pas forcément le dire et ça va pas être, il va même pas forcément le savoir. Alors quand vous faisiez la gueule quand vous étiez petit, vous le saviez, tous tes potes le savaient, toute la cour de récré savait que telle personne faisait la gueule.
Il y avait le pigeon voyageur, enfin,
ouais, exactement.
Moi, j'étais le pigeon, mais une personne qui faisait vraiment le messager, oui, alors elle m'a dit de te dire ça,
et au moins c'était dit. Alors qu'aujourd'hui, un ami va me vexer ou va me dire quelque chose, bah je vais juste le conserver dans ma tête et je vais pas le lui dire. Et donc en effet, peut-être que ça va être violent un moment parce que moi j'ai encaissé des choses, j'ai encaissé. Il y a des trucs que je ressens, mais que je vais pas te dire. Et à un moment, bah ça va juste s'arrêter.
C'est le moment de passer à la boîte vocale. Dans chaque épisode, mes invités se laissent un message qu'ils et elles découvrent à la diffusion de l'épisode. Aujourd'hui, Aurélie est seule, mais elle laisse tout de même un message à Johanna, comme une bouteille à la mer.
Bah écoute, je dirais hello Johanna. Je dirais salut Johanna. Bah écoute, j'espère que tu vas bien tout d'abord et que tu as réalisé les rêves qui te tenaient à cœur. Et je la remercierai d'avoir partagé ces quelques années avec moi, surtout ces 2 années au Mans de photo, où je suis très reconnaissante de l'avoir eue dans ma vie et que j'ai été très contente de faire ce bout de chemin avec elle, voilà, d'avoir grandi avec elle aussi. Mais merci à toi.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, que ce soit amicalement parlant ou dans la vie, plus généralement?
Bah, d'avoir des amitiés toujours sincères.
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. Si tu es encore là, c'est que tu aimes le podcast, alors il te reste une seule chose à faire, parle-en autour de toi. Le bouche à oreille, c'est encore ce que l'on fait de mieux. Tu peux recommander ton épisode préféré à tes amis, ta famille, à tes collègues, autour de la machine à café, mais aussi sur tes réseaux ou en message privé. Bref, merci de faire vivre Friendship au-delà de ton application de podcast. Et si tu veux poursuivre l'écoute de Friendship, je t'invite à découvrir l'épisode 39 avec Mathieu et Hugo, dans lequel on parle de compétition, de rupture amicale et de retrouvailles. Et puis en attendant, je te dis à dans 2 semaines dans Friendship. Ciao! Découvre tout de suite un extrait de l'histoire de Mimi et Marie. L'épisode arrive dans 2 semaines.
Franchement, je crois que tu m'as jamais fait de la peine.
Ah bah attends, je vais régler ça tout de suite. Que la gueule était armée, tu l'as dans... Elle était dans la chambre, là, la balle, c'est quoi? T'as un Glock?
Non, mais tu vois, je pense que tu m'as... J'ai pas souvenir d'un moment où je me suis dit, Marie, ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a dit, là, ça m'a blessée. Ce qui est ok, ça arrive. Je veux dire, on n'est pas la même personne, hein, donc c'est tout à fait possible. Et dans la plupart de mes proches, je peux me souvenir d'un truc où j'étais là... Ça m'a fait de la peine, mais j'ai pas souvenir. Et c'est quand même pas mal, en plusieurs années d'amitié, positif, de jamais... Ça... Même déçu, tu vois.
Puis je crois aussi, tu vois, moi je suis dans des types d'amitié où il y a des périodes où on va parfois se voir de façon hyper intense et puis d'autres où il va y avoir des creux, mais quand on va se revoir, ça va être exactement comme avant. Nous, on se voit fréquemment parce qu'il y a BFF qu'on fait ensemble tous les mois. Moi, je me disais à un moment... par exemple, sur le créneau qu'on fait là tous les mois, est-ce que je le fais évoluer? Est-ce qu'on arrête le concept? Et enfin, il y a aucun monde dans lequel je me disais, ah, mais j'arrête le truc avec Mimi. Je veux que si je crée un nouveau concept, que ce soit forcément avec toi et que cette récurrence, elle soit toujours là.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.
They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tu veux créer un podcast, mais tu ne sais pas par où commencer?
Je pense qu'on a ce qu'il te faut.
Notre programme 30 jours pour créer ton podcast répond à toutes tes problématiques.
La conception de ton projet, le format de ton podcast, les visuels, le titre, l'enregistrement, le matériel, l'hébergeur, le montage, la communication, tout est réuni en un seul endroit pour faciliter le lancement de ton podcast.
Mais au fait, nous, c'est qui nous ?
Moi, c'est Florence, créatrice et hôte du podcast. Avant, j'étais prof.
Et moi, c'est Solène, créatrice et hôte du podcast Friendship.
À nous deux, on a publié plus de 140 épisodes et réuni 120 invités à nos micros.
Notre aventure podcastique a connu de nombreux rebondissements.
L'euphorie du lancement.
La solitude.
Les doutes.
La persévérance.
La passion.
Et enfin, les audiences qui décollent.
Au fil des années, nous avons affiné notre expertise.
Et aujourd'hui, nous te dévoilons toutes nos techniques pour créer ton podcast en toute sérénité.
Alors, n'attends plus pour faire entendre ta voix.
Rejoins-nous dès maintenant sur formationpodcast.podia.com et le podcast n'aura plus aucun secret pour toi.